enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Et le plus important, c'est que les choses qui sont annoncées, eh bien, nous allions jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire que nous en faisons quelque chose de concret. Nous voulons tous du pratique et du concret. Nous ne voulons pas de la théorie, nous ne voulons pas seulement de la théologie ou des mots. Nous savons qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu, mais à un endroit, il est écrit dans la Bible, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il y a donc un moment où il y a des paroles qui ont l'apparence d'être des paroles de Dieu, mais qui dans la réalité, eh bien, ne sont pas chargés de puissance. Et nous avons besoin de revenir alors à une parole qui contient la puissance de Dieu. Romains 1,16 nous dit « L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. » C'est une puissance. Ce n'est pas juste quelque chose comme ça qui s'adresse à notre intellect. C'est une puissance. Donc, je fais un petit résumé où nous en sommes. J'ai dit que nous avons vu dans le Proverbe 6 que nous devons aller auprès de la fourmi pour chercher de la sagesse. La fourmi prépare en été sa nourriture. Hein? Donc c'était mon thème de la semaine dernière. Il y a un temps favorable pour se remplir de la parole de Dieu. Il y a un temps favorable pour étudier. Il y a un temps favorable pour lire, pour emmagasiner. J'ai dit que c'est comme pour votre compte en banque. Si vous ne faites jamais de dépôt, le jour où vous avez besoin d'argent, vous ne pouvez pas en retirer. Dans votre vie spirituelle, c'est la même chose. Si vous ne déposez rien en vous de la parole, le jour où vous avez besoin, eh bien, il n'y a rien. Vous êtes vide, vous êtes sec, vous n'avez rien. Et le plus grave, c'est que le diable ne vient pas pour vous prévenir à l'avance, 3 mois à l'avance, en disant « bientôt je vais t'attaquer et donc prépare-toi pour une épreuve ». Non, il essaye de prendre par surprise là où nous sommes le plus faibles, dans notre endroit où c'est le plus difficile, eh bien, ou lorsque nous sommes fatigués ou occupés à toutes sortes de choses. Donc, il nous faut être prêts. Être prêt, ça veut dire être nourri pour être fort. Préparer en été sa nourriture, j'ai dit que c'était quelque chose que je vous exhortais à faire. Donc, quelle décision avez-vous pris depuis la semaine dernière? Avez-vous prévu de lire, par exemple, un livre? Avez-vous prévu d'étudier en particulier un sujet? Parce que nous ne devons pas juste feuilleter comme ça les pages de la Bible en disant « Tiens, peut-être que je vais tomber sur quelque chose d'intéressant. » Mais il y a aussi des sujets particuliers où de temps en temps, il faut creuser un petit peu. Quelqu'un l'a dit de la façon suivante, il a dit « Il y a eu des endroits dans le monde où ils sont allés à la découverte, ils ont prospecté. Et puis, vous savez, de temps en temps, dans le lit de la rivière, en puisant de l'eau, ils ont dit « Tiens, il y a quelque chose qui brille. » Ils ont ramassé de l'or, ils ont ramassé quelques petites... miettes d'or, je dirais, quelques toutes petites poussières, mais quand ils ont voulu vraiment découvrir là où étaient les filons, en général, il fallait creuser. Il fallait creuser et dans la terre, quelque part, eh bien, tout à coup, on découvrait qu'il y avait là tout un gisement d'or. Eh bien, pour la parole de Dieu, je crois que c'est pareil. Si vous faites une lecture superficielle, je la lis parce qu'il faut bien la lire, vous allez bien sûr glaner par-ci, par-là, quelques petites miettes. Mais lorsque vous avez besoin de savoir quelque chose de précis, un sujet, vous dites, là, je veux savoir quelle est la volonté de Dieu. Je veux recevoir sa sagesse pour savoir comment me conduire. Et quand je dis un sujet précis, ça veut dire un sujet qui peut être très pratique. Ça peut être d'ordre professionnel, relation, éducation des enfants, comment se comporter avec le voisin. Tout est dans la Bible. Il y a de la sagesse pour tous les aspects de la vie. Alors, de temps en temps, eh bien, il faut se dire, eh bien, je vais prendre du temps pour étudier. Et nous avons maintenant, même sans être un docteur en théologie, vous pouvez prendre un petit index biblique, ou même si vous avez une Bible avec quelques références, et vous faites votre petite étude, et c'est très possible. Il faut juste le décider. Et rappelez-vous que la Bible ne s'adresse pas d'abord à votre tête, à votre cerveau, mais elle s'adresse avant tout à votre cœur. Donc, demandez au Seigneur un esprit de sagesse et de révélation. Vous la faites, cette prière, de temps en temps, Éphésiens 1, que le Seigneur vous donne un esprit de révélation. Eh bien, prenons-la ensemble, parce qu'il y en a qui, vous m'avez l'air de douter un petit peu. Alors, cette prière doit être la nôtre, je dis bien tous les jours. Je ne dis pas réciter cette prière, mais être dans cette attitude. Éphésiens 1, verset 15 et suivant. Voilà ce que Paul priait de manière inspirée par le Saint-Esprit pour l'église des Éphésiens, qui était une église solide, bien établie. Vous savez quel était le fondement de l'église d'Éphèse? C'était 12 hommes qui avaient été touchés par le ministère de Paul, qui s'étaient convertis, qui avaient été baptisés d'eau et qui étaient remplis du Saint-Esprit. Voilà, ça a formé le départ de l'église d'Éphèse. Et cette église d'Éphèse, on en parle encore dans l'Apocalypse, elle avait beaucoup de qualités. C'est une église qui était forte. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Je ne parle pas maintenant des reproches que le Seigneur lui fait. Mais retenez juste ça. Voilà la situation d'Éphèse. Apocalypse 2, 2. Après, on reviendra dans Éphésiens 1. Donc, gardez un doigt dans Éphésiens 1. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Pas mal, hein? Pas mal. Eh bien, Éphésiens 1, voilà ce qu'il prie pour eux. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. J'ai dit vendredi soir que cette épître était extrêmement difficile et dense. Vous avez vu que ce que nous avons lu, ces quelques versets, je crois qu'on pourrait s'arrêter sur chaque mot et passer une, deux ou plusieurs heures pour voir tout ce qui y est dedans. Je trouve ça tellement dense, tellement compact. Illuminer les yeux du cœur, savoir quelle est l'espérance. Nous avons un appel, il y a la richesse de sa gloire, il y a un héritage qui nous est réservé, une infinie grandeur de sa puissance qui veut agir pour nous. Voyez toutes ces choses, tout cela est dans Éphésiens. C'est formidable, n'est-ce pas? Enthousiasmant. Enthousiasmant, ça veut dire être rempli de Dieu. Enthousiasme, le mot contient théos, qui veut dire Dieu. Eh bien, cela est enthousiasmant. Quand on s'approche de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux sur toutes les richesses qui sont dedans, eh bien, on est enthousiaste. J'ai dit dans la suite, donc, qu'il fallait se préparer, il fallait se nourrir, il fallait se remplir, comme s'il y avait besoin de le dire, bah oui. Il existe dans le naturel une maladie qui s'appelle l'anorexie, un refus de se nourrir. Cette maladie existe aussi spirituellement. Des fois, on refuse de se nourrir. Un bébé, des fois, refuse de manger ce qu'on veut lui proposer. Et alors, c'est grave, surtout pour les tout-petits. Vous avez un tout-petit qui refuse à un bébé de quelques semaines, vous ne pouvez pas lui donner une fessée pour qu'il comprenne qu'il doit enfin boire son biberon. Un plus grand, vous pouvez le contraindre, le menacer, mais un petit, vous ne pouvez pas. Vous êtes désespéré si le petit ne se nourrit pas. Et comme le corps perd tout le temps de l'eau aussi, eh bien, ça peut être très grave. Donc, ça, c'est des choses, eh bien, qui se passent aussi, spirituellement. Tout ce qui est dans le naturel a aussi sa contrepartie spirituelle. Mais nous devons, au contraire, prier. Prier quoi? Eh bien, il est dit que, dans Osée, que nous devons prier pour que le Seigneur envoie une famine. Non pas de pain, mais une famine d'avoir faim et soif de la parole de Dieu. Et donc, cette prière est tout à fait juste, et c'est ce que je prie, qu'il n'y ait pas de personnes qui soient rassasiées, dire « moi j'en ai entendu jusqu'à la fin de ma vie, je n'ai plus besoin de rien ». Et j'ai continué de dire aussi vendredi soir qu'on ne pouvait pas se reposer simplement sur ce qu'on avait mangé autrefois. De la même façon que dans le naturel, même si une fois vous sautez un repas, même si vous faites un jeûne, eh bien vous ne pouvez pas jeûner pour toujours. Il y a un temps où le corps réclame de nouveau de la nourriture. C'est ainsi que Dieu l'a voulu, et je crois qu'il l'a voulu pour que nous comprenions aussi les choses spirituelles. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'il voulait nous montrer que nous avons constamment besoin de recevoir la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il nous communique sa vie même. Ce n'est pas juste une parole pour avoir, comme on l'a dit aussi, avoir une connaissance qui enfle, c'est-à-dire encore plus dans notre tête. Et j'ai dit que eh bien, si on mange dans le naturel et qu'on ne fait pas d'exercice, eh bien, on grossit de plus en plus, devient obèse finalement. Eh bien, dans le spirituel, c'est la même chose. On a besoin de manger et ensuite de mettre en pratique. Sinon, cela, au contraire, est quelque chose qui va nous faire du mal, qui sera négatif pour nous. Donc, être nourri, on a vu être nourri, mais de quoi? De quoi se nourrir? Je fais tous ces rappels, mais ça ne vous fait pas de mal. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez écouter les cassettes. Mais de toute manière, c'est pour nous replacer un peu dans ce que nous sommes en train de voir ensemble. Romains 10, 8 nous dit, tout le monde devrait le connaître par cœur, la foi, Romains 10, 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'insiste toujours sur le sens présent du mot « entendre ». Il n'est pas dit « la foi vient de ce que j'ai entendu un jour ». Mais la foi, c'est au présent, c'est maintenant, et donc c'est quelque chose qui est le résultat de ce que j'entends maintenant de Dieu, aujourd'hui. Je ne peux pas me reposer seulement sur la foi d'hier, avant-hier, de l'année dernière, mon expérience de conversion d'il y a 15 ans, la révélation que j'ai eue il y a encore plus de temps. C'est certainement des choses qui sont précieuses pour nous, mais on ne se repose pas sur ça. On a besoin de frais, on a besoin de neuf tous les jours. Et c'est comme ça quand on est vivant. Quand on est vivant, il nous faut quelque chose de nouveau tous les jours. Et quand on a une relation vivante avec une personne, eh bien, on ne lui dit pas tous les jours exactement les mêmes mots, hein, comme une machine le ferait. Si vous me téléphonez que je ne suis pas à la maison, vous aurez le répondeur, et à moins que je ne change le message, eh bien, il y aura toujours le même message. Ça, c'est la machine, elle le fait comme ça. Mais si vous venez me voir, je ne vais pas toujours vous dire les mêmes mots. Et de la même façon, quand vous venez à Dieu, il ne va pas toujours vous dire exactement la même chose. Parce qu'il va toujours vous parler en fonction de ce qu'il vous faut maintenant. Donc, être nourri de quoi? Je fais ce petit rappel du proverbe aussi, qui dit que celui qui est affamé, il est capable de se jeter sur n'importe quoi. Mais celui qui est rassasié, il foule aux pieds même le miel. Il y a des moments où nous pouvons même mépriser les choses de Dieu. On peut dire, oh, mais ça, j'ai déjà entendu, ça ne m'apporte rien. Et de la même façon que dans le naturel, eh bien, vous avez une nourriture de base, vous avez toujours certains ingrédients qui reviennent toujours. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs mets, les plus raffinés, ce ne sont peut-être pas tous les jours vous avez un repas de fête sur votre table, avec des choses rares, précieuses et je ne sais. Mais vous savez que votre corps a besoin de tous ces apports quotidiens. Alors si on fait cela, beaucoup de gens ne le font pas, hein, ça c'est clair, et on voit aussi les conséquences. Mais si vous faites cela aussi du point de vue spirituel, que vous ne recherchez que le côté extraordinaire, spectaculaire, un peu côté festif, ben non, il y a aussi, comme certains l'appellent, les haricots verts de la parole de Dieu. Haricots verts, c'est ce qu'on n'aime pas trop des fois. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi, hein, les pauvres, ils n'y peuvent rien, les haricots. Mais ils sont bons pour notre santé, mais souvent, il y a des gens qui ne les aiment pas trop. Bon. Mais nous avons besoin de ces choses. Alors, de quoi avons-nous besoin? J'ai dit, nous avons besoin avant tout d'être nourris des paroles de la foi. Vous voyez, vous êtes bien au bon endroit. C'est pas pour faire une publicité pour une nouvelle dénomination, mais simplement pour dire Romains 10, 8, l'apôtre Paul disait, cette fois-ci on y vient, hein, tout à l'heure je m'étais trompé, mais je voulais quand même en parler de ça. Romains 10, 8, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc si certains ne prêchent pas la parole de la foi, ou ça leur pose un problème que nous parlions de la parole de la foi, eh bien, au moins, quand nous prêchons la parole de la foi, nous sommes en compagnie de l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, et lui prêchait la parole de la foi. Et ça a été le fondement de l'Église telle que nous l'avons maintenant. Donc, c'est déjà pas mal. Et quand il n'a pas pu faire son travail tout seul, donc il avait des collaborateurs, il avait des gens qui étaient avec lui dans le ministère, et son fils spirituel, qui s'appelle Timothée, eh bien, quand il lui écrit, qu'est-ce qu'il lui écrit? Nous le trouvons dans 1 Timothée 4. Il lui écrit au verset 6, « En exposant ces choses aux frères, donc les choses qu'il vient d'énumérer, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, ça veut dire un bon serviteur, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Donc là encore, nous trouvons non seulement en compagnie de Paul, mais nous trouvons aussi en compagnie de Timothée. Ça veut dire tous ceux qu'il a formés. Il a dit, voilà de quoi tu as besoin d'être nourri. Donc, la parole de la foi est la base de notre vie chrétienne. C'est ce que Dieu a voulu. C'est le salut tel qu'il l'a donné aux hommes. C'est rien d'autre. C'est l'évangile. L'évangile est une puissance, il nous est dit, pour le salut de quiconque croit. Hein? On connaît bien ce verset. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce que en lui, dans ce salut, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous n'aurez jamais trop de foi. Jamais. Dites-le avec moi. Je n'aurai jamais trop de foi. Ça n'existe pas. Parce que dès qu'on a la foi vivante, elle va nous pousser à faire quelque chose. Donc, il y aura une action qui va venir. Il y aura un exercice de la foi. Et ça va produire quelque chose dans notre vie et dans le monde. On peut avoir effectivement trop de connaissances intellectuelles qui nous enflent, mais trop de foi, ce n'est pas possible. Et nous avons besoin tous les jours, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, de besoin de nous exhorter à dire « Nourris-toi des paroles de la foi ». Je citais aussi l'autre soir, je citais Frédéric Bosworth, dont nous avons un des livres sur la guérison divine, qui a été un évangéliste très employé par Dieu en Afrique du Sud. Et pendant ces grandes croisades d'évangélisation, il y avait des gens qui étaient guéris. Et il dit qu'il a reçu 225 000 lettres de témoignages de personnes qui ont été guéries pendant leur réunion. Que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il faisait, eh bien, il le fait encore pour ceux qui croient en son nom. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Eh bien, cet homme qui est parti dans la gloire à plus de 90 ans, c'est dans un autre livre que c'est décrit, il savait exactement, Dieu lui avait dit, ce jour-là, je viens te chercher. Ce jour-là, c'est le jour où tu vas rentrer à la maison. Il était prêt, il a dit au revoir à ses amis, et puis il se relève dans son lit et dit, voici Jésus, il a une vision de Jésus qui vient le chercher. Et puis il part comme ça, en pleine santé à plus de 90 ans. Et cet homme, qu'est-ce qu'il faisait pour être en pleine santé? Eh bien, servait Dieu, mais il se nourrissait continuellement des paroles de la foi. Et il disait que même s'il étudie n'importe quelle autre chose, tous les jours, il lit certaines paroles de foi, de confiance en Dieu et de santé, de guérison. Donc, c'est important pour nous que nous tenions compte de ça. Alors, j'ai fait aussi vendredi, j'ai fait une petite présentation de quelques livres, fort original, hein, pour vous donner des exemples concrets comment on peut être nourri des paroles de la foi. On peut bien sûr trouver dans la Bible, la parole de Dieu, on peut trouver des endroits où Dieu nous fait des promesses, nous dit des choses, mais nous avons aussi des livres qui, en ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas d'avoir des livres avec les avis et les opinions des hommes. Hein? Souvent, on a des gens qui écrivent des livres, ils disent, moi je suis chrétien, j'écris un livre, et puis alors on écrit, moi je pense que, et moi je crois que, et on raconte toutes ces expériences. C'est pas que nous soyons pas intéressés par les expériences, mais vous savez, il y a un problème quand on fait une expérience, et après, on analyse l'expérience. Tiens, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé ça? Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Et des fois, on se trompe complètement dans l'interprétation qu'on peut faire d'une expérience. Et nous avons besoin de regarder dans la parole de Dieu pour changer nos expériences. Mais nous avons besoin de faire attention de ne pas interpréter la Bible à la lumière de nos expériences. Vous saisissez la différence? C'est important. Alors je disais, je ne suis pas intéressé par les avis et les opinions. Nous-mêmes, nous ne sommes pas appelés à avoir des avis et des opinions. personnellement surtout. Hein, vous le savez ça? Ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais vous expliquer que nous sommes, quelle fonction avons-nous sur terre? Ambassadeur. Ambassadeur, c'est le fonctionnaire du plus haut rang d'un pays. Tout le monde a compris? Ambassadeur, c'est le fonctionnaire du plus haut rang d'un pays. On envoie dans un pays étranger les meilleurs. C'est ça que ça veut dire. Les meilleurs, ceux qui seront le mieux nous représenter. L'ambassadeur de France en Allemagne est censé représenter notre pays. On y envoie le meilleur, parmi les meilleurs. Parce que toute personne qui verra l'ambassadeur, sa façon de se comporter, sa façon de parler, sa façon de vivre, de s'habiller, tout le reste, aura une image, tiens, voilà quelqu'un qui représente la France dans notre pays. Eh bien, de la même façon, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Quand quelqu'un nous regarde et dit, tiens, voilà quelqu'un qui fait partie du royaume de Dieu. Alors, je vais observer maintenant comment il parle, comment il se conduit, comment il est habillé, comment il mange, comment il vit, et j'aurai une idée du royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et selon l'idée qu'ils en ont, ils auront envie de rentrer dans le royaume de Dieu, ou alors ils se diront, ça ne m'intéresse pas. Mais comment pouvons-nous alors être ambassadeurs? Eh bien, d'abord, nous devons, pour être de bons ambassadeurs, bien remplir notre fonction. Et la première chose qu'on demande à un ambassadeur, eh bien, c'est de connaître la politique de son pays. Et quand on lui pose une question, il parle au nom de son pays et il dit la position de son pays. Et nous avons des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes qui se disent chrétiennes, mais chacun dit autre chose. Moi je pense ceci, moi je suis pas d'accord avec cela, gnagnagna. Alors le monde est confus. C'est pour ça que le monde réagit par rapport aux divisions des chrétiens. Alors, il dit mais où est le vrai là-dedans? Il y a un tel qui dit ça et l'autre dit le contraire et le troisième encore autre chose et tout le monde est confus. Donc nous avons besoin de nous assurer que ce que nous disons est bien la position du royaume. Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de revenir auprès du roi et dire, et toi finalement, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux que je dise sur ceci ou cela? C'est-à-dire se préparer aussi dans la prière, avant des fois d'ouvrir la bouche et de tout de suite dire ce qui nous passe par la tête, de voir qu'est-ce que Dieu veut que je dise à telle personne? Qu'est-ce qu'il veut que je dise dans telle situation? Quelle doit être mon attitude? Eh bien, c'est tout cela, être nourri des paroles de la foi. Et donc, je disais que, au travers de certains livres là que j'ai présentés, j'ai partagé avec vous les expériences que j'ai pu faire avec ces livres. Le premier que j'avais présenté, et j'y reviens maintenant avec une autre illustration, c'était l'autorité du croyant. Tous ceux qui ont l'autorité du croyant entre les mains peuvent le... L'autorité du croyant, ça veut dire que puisque nous faisons partie du royaume de Dieu, nous ne faisons plus partie du royaume du diable. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez regarder dans votre Bible Colossiens 1:12 et vous allez lire que lui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, en ce qui me concerne, même si le diable veut m'embêter ou s'il y a des problèmes avec des mauvais esprits, je préfère choisir ce que Dieu dit. Je dis, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Jésus avait fait cette déclaration que je trouve admirable. À un moment, il disait, parce que le diable cherchait à le tenter de toutes sortes de façons, il disait, il n'a rien en moi. Il n'y a absolument rien en moi qui lui permette d'agir, qui lui permette quelque part d'avoir une prise. Donc, délivré de la puissance des ténèbres, nous sommes dans le royaume de son Fils bien-aimé et nous pouvons appliquer les lois du royaume. Quelle est une des lois du royaume? Eh bien, c'est que Satan ne domine plus sur notre vie. Alors, vous me direz, oui, mais en quoi maintenant, eh bien, on ne peut faire une expérience pratique? Alors, je vais vous partager quelque chose. Il y a quelques années, nous avions travaillé dans une maison d'enfants et nous étions avec mon épouse, couple d'éducateurs. Nous avions une dizaine d'enfants qui étaient avec nous dans notre groupe. Et chaque groupe vivait comme une petite cellule familiale. Il y avait 7 groupes dans cette maison. Et à un moment donné... Donc chacun, disons, représentait une petite famille Et donc, selon les enseignements de la parole, eh bien, il y a aussi le chef de famille qui a autorité dans sa famille. Eh bien, à un moment donné, il y avait une épidémie qui s'est déclarée dans cette maison d'enfants. Il y avait une hépatite B qui avait commencé dans plusieurs groupes. Et cette hépatite B, donc, se répandait. Et nous étions remplis, et je dis étions, ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas maintenant, mais ça veut dire, comme je vous l'ai dit, on ne peut être rempli qu'à un moment donné. Après, il faut se re-remplir, mais pas rempli parce qu'on a été rempli un jour. Nous étions à ce moment-là remplis de la parole de Dieu avec les fraîches révélations de l'autorité du croyant. J'ai dit, Satan, tu ne rentres pas ici dans ce groupe. Eh bien, pendant toute cette période de l'épidémie, tous les groupes avaient été touchés. Pourtant, partout, il y avait des chrétiens. Dans tous les groupes, il y avait des chrétiens qui dirigeaient. Et tous les groupes étaient touchés. Et parmi nous, sur les 12 que nous étions, aucun n'a eu cette maladie. Aucun. Et c'est, vous savez, les enfants étaient en contact les uns avec les autres. Il y avait de la contagion partout. Et dans un des groupes, eh bien, il y avait déjà 3 ou 4 malades sur la douzaine qu'ils étaient. Et il y en a 2 qui étaient en train de l'apporter. Nous leur avons donné de la nourriture. On leur a apporté ceci, on leur a apporté encore d'autres choses. On leur a dit quelle était leur autorité. Ils avaient toujours eu l'habitude seulement de prier, « Seigneur, fais quelque chose à ce sujet ». C'est pas mal de s'adresser à Dieu. Mais il y a des choses sur terre où quand Dieu nous dit de le faire, il ne le fera pas à notre place. Ça, c'est très important. Vous voyez, quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, annoncez la bonne nouvelle, baptisez-les », on peut lire ça dans notre Bible, et puis on va dans notre chambre, on prie « Seigneur, va dans toutes les nations, fais des disciples et baptise-les ». On dirait « Mais c'est stupide ça ! Il faut bien qu'il y ait des jambes et des personnes qui y vont pour leur annoncer. » Mais imaginez que dans beaucoup de situations, nous faisons la même chose. Quand Dieu nous dit « Eh bien, il y a des situations où vous devez faire quelque chose pour que ça s'arrête ou pour que ça change. » Et si nous disons seulement « Seigneur, fais quelque chose », ça ne va pas. Il y a des moments où il faut se lever et dire « Stop ». J'utilise le nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Voilà ce qu'ils feront en mon nom, Marc 16. Eh bien, si vous n'utilisez pas le nom de Jésus, que vous avez reçu, que vous avez une autorité pour le faire, qui le fera à votre place? Qui le fera à votre place? C'est votre privilège. C'est vrai que c'est votre responsabilité, mais considérez-le comme un privilège avant tout. Si maintenant, et j'aimerais bien que ça m'arrive, j'ai le, je crois que c'est le sultan de Bornéo, Brunet, là-bas, l'homme le plus riche de la terre, me donnait son carnet de chèques et me disait, tu peux t'en servir et je te donne l'autorisation d'utiliser ma signature. Alors, eh bien, ça me rendrait bien service de temps en temps. Et on comprend ces choses dans le naturel. Eh bien, nous avons plus que ça. C'est un privilège que Dieu nous a donné d'utiliser le nom de Jésus. Pas à cause du nom de Jésus, nous pouvons nous adresser à Dieu. Parce que autrement, ils diront, mais qui c'est celui-là? Je ne le connais pas. Mais quand vous utilisez le nom de Jésus, ça veut dire que le nom de Jésus vous appartient dans la mesure où vous lui appartenez. Ça marche que comme ça. Mais parce que vous avez le nom de Jésus, eh bien, il nous est dit dans la Bible, par le nom de Jésus, nous avons un accès auprès du Père. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu. Nous pouvons lui parler. Il n'est pas loin de nous. Et donc, il faut le faire. Alors, voilà encore une des illustrations, des choses que je disais, de certains livres et de ce qu'ils peuvent produire dans notre vie. Lorsque nous avons partagé ces vérités avec ces gens, eh bien, ils ont reçu, c'est important ça aussi, ils ont reçu la parole, leurs yeux se sont ouverts, ils ont dit, ben oui, jusqu'à présent on attendait que Dieu fasse quelque chose, maintenant nous comprenons que Dieu veut que nous exercions une autorité spirituelle et que nous refusions que l'épidémie continue et continue. Ceci dit, les médecins étaient passés par là, mais eux ne peuvent pas, comme ça, instantanément, stopper une épidémie et guérir tout le monde, sinon ils le feraient depuis longtemps. Eh bien, au moment où ils ont commencé à prendre cette position de foi, eh bien, l'évolution de la maladie s'est arrêtée. Amen. Il n'y a eu aucune contagion supplémentaire, et les 2 personnes qui étaient en train de manifester quelques symptômes n'ont pas eu la maladie. Et ça a vraiment produit quelque chose, un impact aussi, non voulant pas le dire par triomphalisme, mais nous voulons dire que ça a produit un impact parce que les gens ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une différence chez eux et des choses qui ne se passent pas chez nous. Et dans cette période-là, eh bien, je vivais Marc au chapitre 4, vous pouvez l'ouvrir avec moi, un de mes passages favoris, j'en ai beaucoup, des centaines de passages préférés, pas juste un verset, hein, mais parce que c'est une des lois fondamentales du royaume, le semeur et les terrains. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que dans cette période, je parle toujours de cette expérience dans cette maison, et dans cette période, une de mes activités, c'était aussi de distribuer les repas. Alors on est encore dans ce parallèle constant que je veux qu'il s'imprime dans votre cœur, nourriture physique, nourriture spirituelle. Se nourrir, pas se nourrir mal, entretenir la nourriture, se nourrir, faire de l'exercice. Tout ça doit devenir vraiment quelque chose que nous saisissons spirituellement. Donc ma nourriture, c'était de distribuer... Mon travail, c'était de distribuer la nourriture. Je pourrais rebondir sur Jésus qui a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». C'est pas mal non plus. Mais, donc, on avait une cuisine centrale. Tous les plats n'étaient pas préparés dans les groupes que nous étions. Et donc, il fallait, avec une petite charrette, on passait dans tous les groupes et on leur apportait des plats qui avaient un système pour réchauffer. Et alors, quand je sortais de notre appartement, je disais toujours cette parole qui est là dans Marc, au verset 3. « Écoutez, un semeur sorti pour semer. » C'était ma confession à l'époque. « Un semeur sorti pour semer. » Et quand je passais dans les groupes pour distribuer la nourriture, en même temps, c'était toujours une occasion de contact avec les personnes qui m'accueillaient, qui prenaient les plats et tout ça. Et puis des fois, on parlait d'une chose ou l'autre. Et alors, à ce moment-là, parce que je reste toujours dans mon sujet de bonne semence, j'avais lu tous les mini-livres qui sont là, tous, plusieurs fois même, et donc je savais exactement toutes les semences de la parole de Dieu que j'avais à ma disposition. Et quand j'avais, dans une discussion, le Seigneur me montrait un problème, eh bien, il y avait toujours une semence adaptée. Quand il y avait quelqu'un qui avait visiblement un problème dans sa vie spirituelle, ça n'avançait plus, eh bien, on pouvait voir où est-ce qu'il en est dans sa relation avec Dieu et dans sa dimension de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'elle a expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit? Donc, beaucoup n'y croyaient pas ou croyaient faussement qu'on recevait un paquet où tout était compris à la nouvelle naissance et puis après, il n'y avait plus d'expérience. Ça serait triste si on n'avait qu'une seule expérience spirituelle pendant toute notre vie chrétienne. On peut en faire des centaines d'expériences spirituelles avec Dieu. Mais donc, détecter, tiens, là, il y a un besoin. Une autre fois, ça pouvait être un problème de santé. Et donc, chaque fois, eh bien, j'en profitais pour semer, d'abord pour avoir un dialogue, mais finalement, placer, entre guillemets, quelque chose qui pourrait leur convenir, quelque chose qui répondrait à ceux dont ils ont besoin. C'est ça, un semeur sorti pour semer. C'est ça que Jésus veut faire. Et c'est ça qu'il nous appelle à faire, chacun d'entre nous. S'il y a un besoin, qu'est-ce qu'on fait? On sème une semence. Sème une semence. Et alors vient la partie difficile, le temps que la semence grandisse. Verset 26. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Vous êtes tous des jardiniers, vous avez de la semence à gérer, vous devez savoir ce que vous en faites. Et maintenant, imaginez un jardinier. Vous avez un jardin. Le jardinier sème quelque chose. Et la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il va dehors avec sa lampe de poche et puis il observe là où il a semé des grains et il regarde, est-ce que ça pousse? Et quand les plantes ont un peu grandi, il ressort de nouveau, il passe des nuits entières à observer les plantes pour voir si elles sont en train de pousser. Ben non. On est tous d'accord, c'est aberrant ça. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus dit. Il dit, la semence, qu'il dorme ou qu'il veille, il s'en occupe plus maintenant. Il l'a mis en terre, elle va faire son travail, elle va germer. Il aura un petit peu de travail, quel sera son travail? Ben, arroser de temps en temps. Et puis des fois aussi, il faut dégager quelques mauvaises herbes. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre vie. Mais il y a une chose où nous ne devons absolument pas faire, c'est par exemple trafiquer la plante, essayer de tirer dessus pour la faire grandir. Ça ne marche pas, on l'arrache. Et c'est des choses quand même que nous faisons régulièrement. Il faut nous exhorter à faire attention à ça. Nous sommes en train d'arracher des semences de foi. Et on se demande des fois pourquoi la parole de Dieu ne marche pas. La parole de Dieu, elle marche, elle produit de l'effet, parce qu'elle ne peut pas autrement. Dès que Dieu dit une parole, elle s'accomplit. Elle ne peut pas autrement. À moins qu'elle ne soit annulée par nous. À moins que notre incrédulité dise « Non, j'avais essayé une petite histoire de foi, mais ça ne marche pas. J'ai dit 3 fois le verset qu'on m'avait dit et puis ça n'a pas marché. » Non. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de nous encourager de dire que la parole de Dieu ne peut pas retourner sans effet. Sans effet. Je ne dis pas de répéter comme des perroquets des paroles que nous avons comme ça choisies au gré de nos feuilletages de Bible. Je dis les paroles, les promesses de Dieu que vous avez reçues, celles-là, il faut vous y accrocher. Et ça va changer. Ça va changer votre vie, changer vos circonstances. Donc, rappelez-vous, vous jetez de la semence en terre et que vous dormiez ou que vous veilliez, eh bien, nuit et jour, la semence germe, croît sans qu'il sache comment. Et je l'aimerais préciser que ce n'est pas moi qui ai déclaré ça, ce n'est pas non plus Kenneth Hagin qui a inventé cette doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré ça dans sa parole. Il est à l'origine de la parole de la foi. Il est lui-même la parole de Dieu. Et cette parole reçue produit la foi. Et la foi en action, eh bien, elle transporte des montagnes. Voilà tout. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est un moment favorable de se nourrir. C'est un moment favorable de préparer de la nourriture. Peut-être on en aura besoin un jour. Et c'est un moment de se nourrir non pas de n'importe quoi, parce que vous rappelez de la parabole aussi du champ où il y avait le bon grain et l'ivraie. L'ennemi essaiera toujours de mélanger dans la semence de Dieu des semences d'ivraie, d'incrédulité, de doute et de tout le reste. Toujours, toujours, toujours. Il va le faire parce qu'il sait que si par les soucis, les inquiétudes, il arrive à étouffer la parole de Dieu, eh bien, elle ne produira pas de fruits. Donc, puisque nous avons vu ensemble dans Marc 4 qu'un homme qu'il dorme ou qu'il veille, eh bien la semence germe, il nous faut donc entrer dans le repos. Le repos. C'est le moment alors de pratiquer le repos de la foi. Le repos de la foi, ça veut dire j'ai entendu de Dieu à ce sujet. Je sais maintenant qu'il a décidé d'agir. Et je ne vais pas me mettre entre Dieu et entre la solution. Le repos, ben, ça fait penser aux vacances. Mais il y a des vacances qui, des fois, ne sont pas de tout repos parce qu'elles ne sont pas en Dieu. Alors, quand on court partout et qu'on est en dehors de la volonté de Dieu, on n'a pas de repos. Repos, ça ne veut pas dire ne rien faire spirituellement. Mais ce n'est pas pénible de semer la parole de Dieu. Vous n'avez qu'à ouvrir votre bouche et la proclamer dans les choses qu'il vous a données. Mettre sa foi en pratique, c'est la première des choses, c'est d'ouvrir sa bouche et de la proclamer. Concernant le repos, nous avons plusieurs indications dans les évangiles. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que le Fils de l'homme n'avait pas un lieu pour reposer sa tête. Bon, ce passage n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de vous partager. C'était simplement une allusion que son ministère le conduisait de ville en ville et qu'il n'avait pas un endroit fixe où s'installer. Ça ne veut pas dire qu'il ne dormait jamais. et que chaque fois qu'il voulait dormir quelque part, il n'y avait pas d'endroit. Au contraire, nous voyons que dans son ministère, il a envoyé des disciples devant lui pour préparer un logement. Donc, ça voulait simplement dire que si on le suit, on ne sait pas, surtout à l'époque, mais on ne savait pas où il allait, de ville en ville, et il n'y avait pas un endroit fixe où il a commencé à établir la base pour le ministère, avec des bureaux et plein de choses encore. Non, il n'y avait rien de tout ça. Par contre, nous voyons que il y a des moments, eh bien, Jésus s'est reposé. Par exemple, il s'est reposé près du puits, là où il a rencontré la Samaritaine. Il a aussi, il avait aussi un autre endroit où il nous est dit qu'ils étaient fatigués parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils voulaient se reposer un instant, mais à peine ils avaient décidé de se mettre à l'écart, la foule est revenue. Donc c'est important pour nous aussi d'expérimenter le repos de Dieu n'importe où, parce que nous ne pouvons pas toujours nous mettre à l'écart. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu que les hommes construisent des monastères pour se retirer. Je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu de vivre une vie complètement retirée. Parce que Jésus a dit, je ne vous dis pas de sortir du monde, dans le sens de ne plus être au milieu des gens. Bien sûr, il y a des temps de retraite, dans le sens, on met du temps à part pour Dieu, on prie, des choses comme ça, mais d'être complètement à l'écart pour sa vie, eh bien ça, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Il a prévu, au contraire, eh bien, que nous soyons là où les gens ont besoin de lui. Donc, il est important de trouver d'abord ce lieu de repos en nous. Jésus, nous voyons aussi comment il avait pratiqué sa foi dans Marc 4, au verset 35 et suivant. Regardez bien maintenant une illustration de tout ce que je vous ai dit de la foi de Dieu en pratique. Hein? Vous voulez voir comment ça marche? Eh bien, dans Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quelle est la parole de la foi ici? Eh bien, la parole de la foi, nous avons Jésus, parole vivante, qui proclame une parole. C'est ça la parole de la foi. Il proclame une parole et qu'est-ce qu'il dit? Allons de l'autre bord. Ça, c'est la parole sur laquelle les disciples peuvent maintenant se confier. Mais ils n'avaient pas encore compris. Quand nous disons allons de l'autre bord, nous disons humainement, on va essayer d'y aller. Mais quand Jésus dit allons de l'autre bord, ça veut dire on va y aller. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et ça, c'est la grande différence entre les hommes qui sont limités et la parole de Dieu, eh bien, qui n'est pas, on ne peut rien lui opposer. Eh bien, quand il a dit « passons de l'autre bord », il avait dit cette parole, il avait dit « même quelles que soient les circonstances, les tempêtes, cette barque ne peut pas couler ». Vous êtes d'accord? Cette barque ne pouvait pas couler. Le diable pouvait la secouer comme il voulait. Il pouvait y avoir du vent, des vagues et tout ce que vous voulez. C'était impossible, je dis bien impossible pour cette barque de couler. Elle ne pouvait pas. Même si on avait essayé la remplir d'eau, faire des trous, elle ne pouvait pas parce qu'il y a une loi qui est supérieure à la loi naturelle, c'est la loi de Dieu. Par exemple, les gens ont cru que l'homme ne pouvait pas voler jusqu'au moment où ils ont compris qu'il y avait une loi physique dynamique, qui fait que quand il y a une propulsion dans un avion, eh bien cette grande masse, j'étais impressionné une fois qu'on avait pris l'avion, des centaines de tonnes. Je crois que rien que pour le carburant, on avait plus de 300 tonnes. 300 tonnes de carburant dans l'avion, et sans compter tous les centaines de passagers. Et tout ça, ça vole. Alors que si je prends là un simple stylo et je le lâche, il tombe par terre. On se dit, mais pourtant le stylo, il est bien plus léger que les centaines de tonnes de l'avion. Parce qu'il y a une loi qui est plus grande maintenant que la loi de la gravité. Et c'est cette loi physique qui fait que l'avion peut être propulsé. Eh bien, nous avons quelque chose de beaucoup plus grand encore, c'est que quelles que soient les lois physiques auxquelles nous hommes sommes assujettis, eh bien, quand la loi de Dieu vient en scène, eh bien, elle peut changer les lois naturelles. Si, nous avons chanté tout à l'heure, il n'y a aucune maladie incurable. Si, dans le naturel, les gens parlent de maladie incurable. Et il y a des cas, ben, quand le médecin a constaté, voilà, quelqu'un a une maladie, et il dit, celle-là, on n'a pas trouvé de remède, elle est incurable. Mais quand Dieu vient et intervient dans certaines situations, cette maladie incurable n'est maintenant plus incurable parce que Jésus est passé par là et qu'il avait dit, sois guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ça qui se produit. Et de la même façon, pour toutes les choses de notre vie, eh bien, il peut y avoir une parole qui change tout. Il dit aux hommes, il n'y a rien d'impossible pour celui qui croit, et tout est possible à Dieu. Eh bien là, Jésus avait proclamé cette parole, et cette barque ne pouvait pas couler. Mais les disciples ne l'avaient pas compris. Eux, ils étaient dans le naturel. Ils regardaient les vagues, regardaient le vent, ils étaient remplis de peur, d'inquiétude. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et c'est ça qui est précieux pour nous. Ils dormaient. Comment peut-on dormir au milieu de ça? Ils raisonnent et disent, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pour lui, il n'y avait pas de danger de mort, mais eux n'ont vu que les choses du point de vue naturel. Et dans la même chose, combien de fois nous sommes inquiets, nous demandons comment Dieu va s'y prendre, comment il va faire, et nous essayons de lui aider. Et dès que nous essayons de lui aider, Dieu dit, bah, puisque tu arrives mieux que moi, alors je te laisse faire, débrouille-toi. Et donc nous voyons que ils ont appelé Jésus. Et il y avait quelque chose qui s'était en train de se produire à l'extérieur. Donc, Jésus a dit une parole d'autorité. Silence, tais-toi. Le vent et la mer se sont calmés. Vous voyez, ça c'est, ce ne sont pas des fables, c'est une histoire qui s'est réellement passée. Vous faites bien la différence dans la Bible, dans les évangiles. Il y a des endroits où Jésus dit une parabole. Mais il y a des endroits où c'est simplement les faits. Historiquement, il y a 2000 ans environ, eh bien, cet épisode s'est produit. De la même façon que Jésus a marché sur les eaux, de la même façon qu'il a multiplié de pain et nourri des milliers d'hommes, et toutes ces choses se sont produites. Ce ne sont pas des contes, légendes et fables, c'est la vérité. Ça s'est produit, et comme nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, eh bien, il est toujours capable de faire les mêmes choses. Mais à nous de le rencontrer là il est. Donc le repos qui n'y aspire pas, eh bien, nous voulons simplement mettre la parole de Dieu en pratique. Quand ça va mal, quand il y a des soucis, quand il y a... Et nous ne disons pas, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude. Quelqu'un a fait une fois cette déclaration à mon sujet, m'a dit, chez lui, on voit bien qu'il n'a pas de soucis. Alors, c'est simplement que je leur donnais cette impression parce que je refuse que les soucis me détruisent. Et je ne parle pas tout le temps des problèmes que j'ai, et je ne parle pas tout le temps des inquiétudes qui peuvent être là. Je refuse de leur donner une place exagérée dans ma vie, elles en ont déjà beaucoup trop. Alors, je les combats de cette façon. Ça ne veut pas dire que si une fois on est ensemble et que je veux partager quelque chose avec vous, je ne peux pas vous dire la réalité de ce que je traverse, mais après, il faut en faire quelque chose. Je parlais juste du problème, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la solution et en être débarrassé. Or, la solution, nous sommes en train d'en parler. Mettre la parole de Dieu en œuvre. Et rappelez-vous, elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Donc, même quand il y a fatigue, Dieu s'est reposé le septième jour. Dernièrement, je médite ça, je dis, avait-il besoin de se reposer? Était-il fatigué? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu fatigué? On ne peut pas l'imaginer ça, non? Hein? Pourtant, il nous est dit dans la Bible qu'il s'est reposé le septième jour. Donc, reposer ne veut pas simplement dire mon corps a besoin de repos, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire, je me place dans une attitude où je n'agis pas. Se reposer. C'est à la fois merveilleux et terrible. On se dit, oh là, mais si Dieu se repose, s'il n'agit plus, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, ça nous parle de certaines choses que nous devons faire. Si Dieu se repose, c'est qu'il s'attend que nous agissions. Nous sommes dans ce septième jour. Le septième jour dure assez longtemps. Il n'a pas duré 24 heures. Le septième jour, c'est toute la période maintenant où Dieu avait créé le monde et il a laissé maintenant à l'homme aussi quelque chose à gérer. Donc vous aussi, sachez, vous levez avec autorité, proclamez les paroles de la foi. Quand il y a un peu trop de tempête et de vent, des fois il faut dire silence, tais-toi. Et de comprendre qu'il y a un repos pour nous. Je vous donne comme devoir de vacances de lire Hébreux. Dans les Hébreux, vous allez voir, surtout dans les premiers chapitres, eh bien qu'il y a un repos. Hébreux 3, verset 7, ça commence, et toute la suite, verset 1er du chapitre 4, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Vous pouvez encore y rentrer aujourd'hui, c'est pas encore, la porte n'est pas encore fermée. Elle va peut-être se fermer un jour, mais heureusement c'est pas notre problème. Et il nous disait qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hein, c'est dur hein, quand on veut prendre un train et puis on le voit partir sur le quai de la gare. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux parce que beaucoup de gens ont entendu cette bonne nouvelle. Mais il nous a dit la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Alors, mon désir, c'est que cette parole qui a été annoncée ce matin vous serve à quelque chose. Et parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. De la foi, remplaçons par le mot confiance. Ayez confiance en Dieu. Il veut que vous puissiez trouver du repos auprès de lui. Pour nous, tout le monde peut dire pour nous? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Point. Nous entrons maintenant et nous y demeurons. Une chose est d'y entrer, mais si on y ressort tout de suite, à quoi ça sert? De la même façon, quand on applique ce verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Vous vous déchargez et 5 minutes après, vous vous chargez de nouveau. Non, il est dit « Se décharger une fois pour toutes, dire Dieu s'en occupe. » On va s'arrêter par là. Entrons dans le repos de la foi. Ce serviteur infatigable qu'est la foi doit travailler pour nous. Amen.